qu'est-ce que c'est que le jugement? Eh bien, voyez-vous, à travers les siècles, et maintenant à travers tous les continents et tous les pays, tous les êtres humains, au moment de mourir, l'âme sort du corps. Alors l'âme voit comme les anges, comme Dieu, parce que les yeux sont une manière de voir très mécanique. Et donc, les expériences de mort imminente, mystère et boule de gomme, hein, est-ce que c'est l'imagination? Certains se disent flotter au-dessus de leur corps et voir tout ce qui se passait dans la pièce. Certains ont été emmenés dans des pièces différentes alors qu'ils étaient dans le coma et les yeux fermés, et ils décrivent les pièces. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que eux-mêmes ont, après, dans l'hôpital, traversé ces pièces, les connaissaient? Vous savez, au point de vue apologétique, les expériences de mort imminente, il faut faire très attention. Moi, j'ai le père d'un ami qui a eu le cœur qui s'est arrêté pendant plusieurs minutes et qui a vu un couloir noir, n'est-ce pas, et une lumière au bout. Et au fond de cette lumière, des âmes, des êtres lumineux. Il approchait, et puis hop, il y a une voix qui lui a dit « Retourne ». Et il est reparti dans l'autre sens. Et ça peut être de la pure imagination. Faites attention. C'est pas une apologétique suffisante. Par contre, vous pouvez... ça peut être vrai. C'est-à-dire que l'âme sortant du corps, il y a une personne comme ça qui avait été coupée par une machine, une tondeuse, et elle flottait au-dessus du jardin. Elle voyait les gens arriver près de son corps, tout ça, avec le bras coupé. Elle a tout vu alors qu'elle n'était pas éveillée. Oui.
Le père de Robert qui a témoigné pour le Padre Pio, qui est un fils spirituel.
Oui.
C'est intéressant son témoignage.
Oui, qu'est-ce qu'il a dit?
Regardé par internet ce soir, vous êtes, oui, le père de Robert et vous aurez... Il a été fusillé en Algérie pendant la guerre d'Algérie.
Oui.
Normalement, il était mort. Mm-hmm. Il avait retrouvé son capitaine, je le raconte mal peut-être, était étonné en disant, mais c'est le compagnon. Et le Padre Pio est allé... Le Padre Pio lui a dit, tu m'as beaucoup... Lisez-le parce que j'ai peur de dire...
Voilà, c'est-à-dire que l'âme est revenue.
L'âme est revenue, mais il a vu ses parents, il a ensuite raconté des choses à ses parents qui ont dit, mais comment sais-tu ça, etc. Et puis surtout son témoignage...
Mais ses parents qui étaient morts.
Quand il a vu ses parents...
Non, il était...
était encore... Écoutez...
voilà, non mais... mais
justement, il n'a pas voulu qu'on... Il a voulu qu'on... Ne pas publier cet écrit avant qu'il soit mort lui-même. Et
oui.
C'est après sa mort qu'on a publié cet écrit, et en fait, ça a servi à la béatification ou à la sanctification du Padre Pio.
Oui, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, une âme sort de son corps, Dieu lui permet de voir les autres esprits, donc les autres âmes. Imaginez que... Mais, si vous voulez, à ce moment-là, il n'est pas jugé. Puisque Dieu sait qu'il va pas le juger, qu'il va pas le, mais il le laisse connaître les êtres après la mort, hein, ce qu'on appelle communément, lorsqu'une âme apparaît sur terre, on appelle ça un fantôme. Et quand les apôtres sont sur leur bateau et que le Christ marche sur l'eau, ils ont peur parce qu'ils pensent que c'est un fantôme, c'est-à-dire l'âme d'un mort qui est là. Comme le roi Saül a demandé à Samuel de revenir, et Samuel est apparu. Bon, c'est une illusion qui est faite, hein, parce que l'âme n'a pas de matière, mais Samuel lui a reproché à Saül de l'avoir invoqué, parce que on laisse les morts, on a de relations avec les morts que pour le bien. Oui.
Tout à l'heure, vous avez dit que quand il y a quelqu'un, il a coupé, je crois qu'il a coupé un arbre. Oh oui, il s'est coupé la main.
Oui.
Et qu'en fait, à un moment donné, son âme, elle est sortie de son corps.
Non, mais il a perdu connaissance parce que c'était épouvantable.
C'est une illusion, en fait.
Comment?
C'est possible que ça soit...
C'est ou une illusion, une imagination, vous êtes dans le coma et vous imaginez tout ce qui arrive, ou c'était vrai.
Parce qu'en fait,
l'Église ne se prononce pas actuellement parce qu'on n'a pas assez d'éléments.
Parce qu'en fait, il y a... ça m'a fait penser à quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a un boxeur connu qui s'appelle Mike Tyson.
Oui.
Et ben il disait que lui, à un moment donné, il était tellement concentré dans sa boxe ou quoi, qu'il arrivait à un état mental où il arrivait à faire ce que vous dites là, sortir de son corps.
Oui.
Ça s'appelle le flow mental. Ça faisait penser à ça, comme si.
Oui.
Il est éveillé, mais quelque part, comme s'il sentait qu'il était au-dessus de son.
Oui, mais ça, pour le coup, là, on considère que c'est l'imagination. Par exemple, les voyages astraux. Les voyages, enfin des personnes qui se mettent dans un état de méditation et leur âme sort du corps et va se promener sur la terre.
Le corps astral.
Le corps astral. Mais ça, c'est faux. Et ça, ce sont les démons qui vous font voyager. Là, ils fournissent les images. Aucun problème. Parce qu'ils vous font croire que vous pouvez avoir une vie spirituelle dans la démonologie. Tandis que si l'âme sort du corps, eh ben le corps il pourrit. Il est mort. Et la seule possibilité pour sortir de son corps, c'est par un miracle divin. Donc Dieu maintient le corps en vie, ou lui permettra de revivre par stimulation. Si l'absence d'âme n'est pas trop longue, le corps est encore organisé. Comment ?
C'est une illusion.
Ah, mais que de nous-mêmes, l'âme sorte du corps, on puisse faire sortir notre âme du corps, ça c'est faux.
Ouais, ouais.
Ça c'est... Alors, donc tout ça c'est très intéressant, hein, parce que ça montre bien que l'âme peut exister et avoir des pensées en dehors du corps. Oui.
Et la vie antérieure, quand on a une impression de déjà vue.
Eh bien, c'est une illusion.
Non,
non, non, non, non. Et saint Paul le dit très clairement. Il dit, il n'y a pas de migration des âmes. Hein. Il n'y a pas de réincarnation. Alors d'ailleurs, si la réincarnation avait été voulue par Dieu, ça serait plus que tel enfant qui joue du Mozart à 6 ans. Quoi. Il faut vraiment, ça serait beaucoup plus universel. On aurait tous nous aurions des souvenirs d'une vie antérieure. Oui. Oui, alors, qu'est-ce que c'est que l'extase? C'est l'âme à qui Dieu montre quelque chose de sa nature, alors que l'âme est dans le corps. Alors là, si vous voulez, l'âme est dans une telle joie, un tel transport, que ça rejaillit sur le corps. Vous avez Sainte Bernadette à Lourdes, elle voit Marie, la Vierge Marie, son âme voit Dieu, ça rejaillit sur son corps et le corps de Marie est à quelque chose de lumineux. Cette lumière suffit à transporter de bonheur une âme humaine qui la voit. Et ainsi, son corps est comme anesthésié. Et on a eu la piquer, la pincer. Elle a même eu à un moment donné un cierge qui est arrivé jusqu'à son doigt. Elle ne sentait rien. Mais Dieu a empêché la flamme de brûler sa peau. Parce que elle ne sentait rien, mais le feu aurait dû brûler la peau. Là, il y a un miracle dans le miracle, hein, le fait d'avoir une extase. Le Padre Pio, lui, son âme sortait de son corps. Mais bon, il y a d'autres saints qui ont bénéficié de ce qu'on appelle la bilocation. Et allait se promener pour agir. Hein, le Padre Pio a donné les derniers sacrements à un ami évêque. C'est Saint Alphonse de Ligorie qui a donné les derniers sacrements à un ami à 300 km de là. Hein, donc Alphonse est venu. Hein, cet évêque a laissé un papier. Alphonse est venu. Il lui avait promis d'être là à sa mort. Et comme il est mort dans la nuit, eh bien Alphonse a l'a su, Dieu lui a dit, ton ami est en train de mourir, et l'âme d'Alphonse a quitté son corps, Dieu, dans ce cas-là, maintient le corps en vie, hein, c'est une promesse quand même, parce que s'il revient dans un corps décomposé, c'est pas... Voilà. Bon, Dieu peut à nouveau faire comme pour Lazare, mais c'est pas drôle, il vaut mieux empêcher la décomposition. Oui. Oui. L'extase, c'est quand Dieu nous fait voir quelque chose de sa nature, mais pas directement, sinon on serait en ciel, au ciel. Et donc, le contact entre l'âme et le corps est complètement transcendé, et le corps est dans un état d'ébullition, si vous voulez, lumineuse. Et parfois, vous avez le visage qui devient lumineux. Mais il ne voit pas Dieu. Hein. Saint Paul, son âme a été transportée, je crois, au troisième ciel. Hein, le septième ciel, c'est voir Dieu, dans une tradition orale ancienne. Et Saint Paul dit qu'il a été au troisième ciel, c'est une tradition synagogale, hein, qui nous vient de la piété juive. Mais Saint Paul dit, était-ce dans mon corps, hors de mon corps, je ne sais, Dieu le sait. Donc il est en train de dire que son âme est sortie de son corps. Voilà ce que dit Saint Paul. Et là, une extase, c'est l'âme est dans le corps. Quand, si un jour à Saint-Eugène, vous voyez mon visage lumineux et je pars à 10 cm en l'air, ou 20 cm, voire 50 cm, là, vous pourrez vous dire, on va pouvoir... avoir beaucoup plus de monde à la messe, Saint-Eugène va devenir un lieu de pèlerinage, on a un saint, quoi.
Basilique Saint-Eugène.
Voilà. Mais seulement, le démon peut le faire. Vous avez des religieuses qui avaient des extases et qui montaient en l'air dans les stalles du couvent, et c'était démoniaque. Hein. Parce que, en fait, ce n'est pas le miracle qui est important, c'est la vie spirituelle qui accompagne le miracle. Oui. Vous, d'abord.
J'ai une question. La guérison qui a été tuée par la bilo dans son église, est-ce que c'est considéré comme de la bilocation
ou... Bilocation.
Bilocation, non.
La quoi?
La guérison qui avait été tuée Padre Pio d'un enfant malade dans une église quand il était...
Alors qu'il était au couvent?
Non. Avant, en repos.
Et il était présent?
Il était présent.
Alors non, c'est pas une bilocation. Il est là, il prie. La bilocation, c'est que le Padre Pio est dans son couvent. Son corps, tout d'un coup, bouge pas beaucoup, et il est à Rome en train de prier. Il y a des personnes qui ont vu le Padre Pio prier dans les années 50, hein, dans la crypte du Vatican, devant le corps de Saint Pidis, et il était au couvent. Et il a fait d'autres bilocations, mais oui, vous pouvez poser une question. Oui.
Et pourquoi les religieuses, elles auraient été...
Mais parce que la vie du Padre Pio a été très cohérente, et donc on estime que c'est Dieu qui a fait les bilocations de Padre Pio, et ses extases, mais il n'en a pas eu énormément des extases, où Saint Jean Bosco, lui, quand il célébrait la messe, dans les années 1880, hein, il partait à 10 cm en l'air, n'est-ce pas? Donc le servant de messe... Voilà. Donc, il était confirmé dans la foi catholique, hein, parce que je disais. Mais l'Église ne reconnaît le miracle que si la vie de la personne est sainte. C'est-à-dire que si le Don Bosco était un prêtre vulgaire, agressif et méprisant, on se serait demandé pourquoi il part en l'air et le visage éclairé lorsqu'il célèbre la messe. On n'aurait pas considéré que c'était Dieu. Oui, sauf les miracles de premier ordre, comme la résurrection d'un mort. Ça, le démon sait pas faire. Ou alors, s'il le fait, c'est en apparence. Et donc, il faut qu'il fasse une illusion pendant des semaines, des mois, des années, pour qu'une personne qui était morte apparaisse comme vivante. Donc, c'est une permission divine qui dure des années. Et puis, en plus, la personne ressuscitée, apparemment ressuscitée, le démon peut pas ressusciter. C'était un cadavre. Donc il vous fait un mannequin mieux qu'au musée Grévin. Vous savez, au musée Grévin, on vous fait des mannequins en cire extraordinaires, parfois certains, ou pour les effets spéciaux, avec un grain de peau extraordinaire. Mais les démons savent mieux le faire que nous. Ils peuvent faire quelqu'un même qui transpire, qui a les yeux humides. Ils ont une maîtrise des atomes et de la matière parfaite. Lorsqu'ils font un corps d'emprunt, vous croyez voir un homme, hein, alors que c'est de la matière ou c'est un hologramme extrêmement dense. Hein, c'est Luther a vu Lucifer, hein, qui était sous l'apparence d'un moine, et qui lui a posé des questions sur sa théologie, et à la fin, Luther l'a chassé en jetant un entrecrier. Mais ça, c'est dans l'histoire protestante, hein, c'est reconnu. Il a eu une apparition diabolique. Mais alors, eux présentent ça comme une tentation, une mise à l'épreuve. Mais Lucifer le poussait dans sa logique la plus forte, en disant, ben, donc on peut tuer, puis si on peut pécher, si on croit. Et enfin, le dialogue entre Luther et Lucifer, ça a été une apparition de Lucifer à Luther qui est reconnue par les protestants. Mais quand la Vierge Marie voit Gabriel, elle le voit. Lorsque, à la parélémoniale, le Christ apparaît sans doute pas avec son corps. Mais on estime par contre que Jésus est revenu de l'ascension pour saint Paul, et qu'il est apparu à saint Paul en corps et en âme. Tout cela pour vous faire comprendre justement que le fait même de l'âme, tout ce qui est fantôme, tout ce qui est présence d'âme, eh bien on va le voir avec le purgatoire. Quand on meurt pour de bon, que l'âme sort du corps et ne va pas y retourner. Pauvre Lazare, hein, oui, il meurt, il va au limbe des patriarches, à la limite entre la vie humaine et l'enfer, les enfers au pluriel. Et là, les autres disent, tu n'as pas été jugé? Ben non. Ah, c'est qu'il doit y avoir un truc. je vais pas rester, ou peut-être que Dieu lui a dit, hein, tu vas revenir dans ton corps dans 4 jours, donc là, ben, il n'a pas de main. Hein, donc, voilà. Mais donc il voit Moïse, il voit Abraham, il voit tous les saints de tous les siècles précédents, mais il sait qu'il va revenir dans son corps. Voilà. Et donc, mais quand on meurt pour de bon, et que Dieu arrête notre vie terrestre, on est jugé. C'est ce qu'on appelle le jugement particulier. Ce jugement particulier, voyez-vous, c'est le fait qu'on rencontre Jésus en personne et que comme notre âme est sortie de notre corps, toute notre mémoire est en une seule pensée. Toutes les images, tous les actes, toutes les pensées de notre vie sont comme pour les anges en une seule pensée. C'est très pratique. Là, vous n'avez vraiment pas à chercher les images, à stimuler le cerveau qui aide, qui fait partie de cette vie terrestre. Quand vous avez une lésion au cerveau, l'âme, elle suscite plus les images. Et voilà. Et vous avez une âme qui a toute sa vie en une seule pensée. Et avant de mourir, cette âme a choisi entre le bien et le mal. Et voilà. Et on est face à Jésus. Vous avez les chrétiens qui sont face à Jésus, vous avez les juifs qui sont face à Jésus, vous avez les musulmans qui sont face à Jésus, vous avez les hindous, les bouddhistes, les aborigènes, les animistes, les aztèques. Pouf, ils sont tous devant Jésus. Avant l'incarnation, ils étaient tous, ils étaient jugés par la Sainte Trinité sans distinction des personnes. Mais depuis que le Fils, le Verbe, la parole du Père s'est fait homme, là, ils bénéficient d'une image plus concrète. Voilà. Je ne sais pas comment étaient jugés ceux qui sont morts avant l'incarnation. Mais ils étaient jugés aussi, hein, sur le bien, le mal. Mais depuis 2000 ans, enfin 1981 et des brouettes, c'est Jésus qui juge tous les êtres humains. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont, les êtres humains? Ils sont là, avant de mourir, on choisit entre le bien et le mal, l'espérance et le mépris. Tout être humain se pose la question de son origine. Tout être humain sait qu'il a des parents, même s'il ne les a pas vus, il voit chez les autres des parents. Il sait qu'on vient de quelqu'un. Et qu'on remonte, on remonte, on remonte, on remonte, et on voit que l'être humain est fragile, et il n'est pas tout puissant, et il meurt. Et il est malade et il meurt. Tout être humain, toute civilisation, toute culture se pose la question de la puissance créatrice. Il n'y a que Luc Besson qui pense qu'on est du 220 volts. Un flux d'électrons dans les atomes. Le pauvre. Hein, à la fin, on est une clé USB. C'est dans Lucie. Son film Lucie. On termine en clé USB. Toute l'histoire humaine, une clé USB. Ben oui, puisque tout est électrique. Hein. Oui.
Je reviens sur parler de mon père.
Oui.
Comment elle a vu que Marie-Thérèse montre sur quand on va là-bas, on voit Jésus en croix.
Oui, mais quand Jésus apparaît enfant, il apparaît pas avec son vrai corps.
Mais elle a vu comment alors?
Ben là, elle l'a vu adulte, mais probablement le Christ n'est pas venu de là où il est actuellement et du lieu où qu'il ne nous a pas révélé. Actuellement, Jésus est bien quelque part, il a son corps. Marie est avec lui. Mais ils ont un vrai corps. Hein. Donc, quand Jésus apparaît, en tant que Dieu et tout-puissant, il peut faire l'apparence de son corps n'importe où et même à plusieurs endroits. Même son être profond, sa substance peut être à plusieurs endroits, dans les tabernacles, à travers le monde.
Donc, c'est une vision, en fait.
C'est une vision, probablement, Sainte Marguerite Marie. Tandis que Sainte Catherine Labouré à Paris, c'est Marie en personne. C'est la raison pour laquelle il y a une piété pour le fauteuil où Marie s'est assise. C'est la raison pour laquelle les gens touchent la pierre de Lourdes, en se disant que 3 mètres en haut, Marie a posé ses pieds. Ça, c'est la dévotion populaire qui est indestructible. Parce qu'elle a des éléments de vérité très profonds. On est jugé sur ce qu'on a choisi d'aimer ou de ne pas aimer, de ne pardonner ou de ne pas pardonner. Et on sait que Dieu est du côté du bien, de l'amour, du pardon, de la patience. On a tous vécu avec quelqu'un qui nous donnait un reflet de l'autorité et de l'amour divin, qu'on était un Inca, a assisté dans les années, 508, au énième sacrifice humain de la pyramide machin. Ah, voilà. Il y en a bien un sur le lot qui a dû se dire, c'est vraiment dégoûtant. Franchement, si Dieu c'est le soleil, si c'est le serpent à plumes, moi je me souviens de mon grand-père, il me disait que c'était écœurant. Et qu'il fallait faire le bien dans le village, tout ça. Vous savez, vous avez certaines religions où on peut se dire quand même que ceux qui se sont sauvés, ce sont ceux qui ont, au fond de leur cœur, rejeté certaines atrocités de leur religion et de leur culture. Et c'est la raison pour laquelle les missionnaires vont à travers le monde pour donner la lumière de la vérité par rapport à tout ce que les hommes, dans leur solitude, dans leur éloignement, depuis le Tigre et l'Euphrate, comme on s'est réparti depuis Babylone, hein, depuis Babel, hein, toutes ces peuplades qui sont parties dans tous les sens, qui ont peuplé l'Asie, qui ont peuplé l'Afrique, qui ont peuplé l'Europe, à partir de cette Asie mineure, hein, où on a les nécropoles les plus anciennes, et elles viennent de là, les cultures, les civilisations les plus anciennes, de tout ce qui reste de ce qu'avait pu construire Cain, mais plutôt ensuite Sem, Cam et Japhet, les enfants de Noé, qui se sont tous ensuite répandus à travers le monde. La preuve en est, c'est que nous avons exactement le même sang. La modification de l'assemblage des acides aminés qui fait qu'on est blanc ou noir ou jaune ou avec les cheveux qui tournent ou qui tournent pas, c'est vraiment c'est du tri de cartes dans les acides aminés. Hein. Mais on a exactement les mêmes acides aminés de notre ADN. Nous sommes tous frères et sœurs. Enfin, très 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 cousins quand même. C'est pas incestueux si on se marie. C'est très 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 large hein, comme cousinage. Mais nous sommes tous liés. Et liés justement à Adam et Ève. Eh bien, cette tradition adamique de ce bien et de ce mal, de ce lien avec la divinité, eh bien, tout homme doit l'avoir. Et saint Paul nous dit bien, pour se sauver, c'est-à-dire pour être jugé positivement par Dieu à cause de notre choix du bien et de l'amour, il faut que croire qu'on n'est pas seul au monde et indépendant et autonome, qu'on est lié à Dieu, Créateur et Père, et qu'on doit faire le bien et éviter le mal. C'est pas très compliqué pour se sauver, finalement. Vous voyez ? Et cette connaissance du bien et du mal, elle est dans notre conscience. Et ensuite, c'est notre volonté qui la saisit. Et c'est à la portée de n'importe qui. Même de l'homme le plus grossier, stupide, libidineux, vulgaire, il peut se sauver. Oui. Parce que, ultimement, il peut considérer qu'il doit faire le bien et éviter le mal et regretter le mal qu'il a fait. C'est comme ça qu'on se sauve. Oui. Ah oui, oui, oui. Mais là, pour l'instant, je suis au jugement des païens, donc on va. Oui, jugement particulier. Ah oui, 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 ça aide. Et donc, qui est présent à ce jugement particulier? L'ange gardien que Dieu a donné à chaque âme, au petit aztèque. Moi, c'était l'exemple que je prenais au séminaire. À un moment donné, le professeur de dogme dit « Et le petit aztèque de l'abbé Guelfucci ?» Parce qu'à chaque fois, je limitais le petit aztèque pour qu'il admette qu'on puisse quand même se sauver dans l'ignorance invincible de la pleine vérité sur Dieu, mais dans l'adhésion à la vérité de Dieu telle qu'il pouvait la connaître, par la grâce de Dieu. Parce que lui, comme il était janséniste, il disait ah, « Si vous connaissez pas le catéchisme de l'Église catholique par cœur, vous êtes damné. » Ben, c'est un gros problème. Mais il est important quand même que les missionnaires aillent à travers le monde parce que vous êtes influencés par la fausse religion dans laquelle vous vivez et qui vous pousse au mal. Donc ce qui n'est pas politiquement ou religieusement correct, c'est de dire justement, vous avez dans telle branche de la chrétienté, vous avez le divorce, par exemple. Il n'y a que l'Église catholique qui garde l'indissolubilité du mariage. Or, le divorce est une atteinte à la charité qui est très profonde. On peut s'en relever, on peut demander pardon, mais c'est pas... Voilà, c'est... Si c'est organisé par la religion, c'est que ça vient pas de Jésus. Et ensuite, c'est une... on jette pas la pierre, le Christ n'a pas jeté la pierre, mais il faut ce qu'il faut pour mettre une pression pour la vérité du mariage, d'où les procès de nullité, dont certains se moquent, mais qui sont justement une logique de défense de la véritable, du véritable consentement et de la véritable volonté d'être marié. Imaginez donc, tous les païens ont leur ange gardien à leur mort, à leur côté. Et l'ange dit à Dieu tout le bien qu'il a fait. Dieu le sait déjà, hein, Jésus le sait déjà. Mais il y a une sorte de prière de l'ange à ce moment-là. Ça doit être très beau, n'est-ce pas ? L'âme est là, elle a toute sa vie devant elle, et elle a choisi. Donc l'ange le console, le rassure, enfin, je ne sais pas comment ça se passe, je ne suis pas encore mort. Et là, le Christ lui dit, tu as choisi d'aimer, viens avec moi, mais s'il n'a pas aimé totalement, l'âme elle-même ne veut pas entrer dans la lumière divine tout de suite parce qu'elle se sent pas propre, pas nette et va attendre et regretter. Alors ça, c'est le côté mignon du purgatoire. Mais le côté moins mignon, c'est que ce qu'on regrette, ce sont des méchancetés. Il n'y a pas de péché sans volonté. Il n'y a pas de péché, je ne sais pas ce que j'ai fait. Seigneur, je ne me souviens plus du tout dans cette confession ou machin, tout ça. Oh, mais Dieu va me reprocher des choses que j'ai complètement oubliées, ça va être affreux. Non, ça ne se passe pas comme ça. Nous savons très bien la méchanceté qu'on peut avoir au cœur. Et c'est à cause de cette méchanceté qu'il y a au purgatoire un feu réel. Ce qui fait que le purgatoire est sous terre, à côté de l'enfer. L'enfer est un lieu, figurez-vous. C'est un lieu creux, probablement parce que, à la fin des temps, ils reviendront avec un corps. Des cavités sous la terre. En tout cas, c'est sous la terre. Et là où il y a du feu. Donc vous choisissez le volcan que vous voulez. Mais là, il y a du feu. Et du vrai feu. Quand la Vierge Marie fait une leçon de caté musclée aux enfants de Fatima, elle ouvre les bras. Dieu fait sortir une lumière des bras de la Vierge Marie, le sol devient translucide, et qu'est-ce qu'il voit dans le magma terrestre? Des âmes et des démons. Les démons sont sous forme horrible, mi-animal, mi-homme, et les âmes en enfer ont une apparence de corps humain, et sont brûlées, partent en l'air dans des explosions de flammes, comme à la surface du soleil, si vous voulez. Voilà. Et sont comme des feuilles mortes dans le vent. Voyez? Sans équilibre, disent les enfants. Ils sont pulvérisés, et torturés par les démons. Voilà. Finalement, Dieu, hein, quand il punit, ça rigole pas du tout, hein. C'est que vraiment, ils ont été méchants quand même. Parce que quand vous pensez aux peines de l'enfer, il y a des théologiens qui ont quand même l'audace de dire que c'est une miséricorde d'être brûlé dans le feu de l'enfer.